VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde. Aujourd'hui, édition du jeudi 19 avril 2018, en direct de Washington, Idrissa Seloulia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Niger, fermeture du campus universitaire de Niamey après de violents heurts entre forces de l'ordre et étudiants.
Le Conseil de sécurité de l'ONU veut une plus grande sécurité pour les casques bleus de la MINUSMA au Mali après l'attaque de samedi à Tombouctou.
En Centrafrique, la MINUSCA assure qu'elle ne cédera pas à l'intimidation en réaction au récent regroupement d'éléments armés issus de l'ex-Séléka.
En République démocratique du Congo, Constant Omari, président de la Fédération congolaise de football, est libre depuis mercredi soir.
Ici, aux États-Unis, le président Donald Trump est optimiste quant à la possibilité d'une Corée du Nord dénucléarisée.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Niger, les autorités ont décidé de fermer jusqu'à nouvel ordre le campus universitaire de Niamey et toutes ses cités annexes. Une décision qui intervient après de violents heurts entre forces de l'ordre et étudiants qui ont barricadé les voies qui mènent à l'université pour protester contre la non-satisfaction de leurs revendications. Précision de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
C'est en début d'après-midi, ce mardi, alors que les affrontements se poursuivaient encore, que le ministre des Enseignements supérieurs, Yahuza Sadissou, a annoncé la décision de la fermeture du campus universitaire de Niamey.
Il va falloir fermer le campus pour que la stabilité, la paix revienne sur le territoire du campus. Mais nous n'avons pas fermé les facultés, nous n'avons pas fermé le restaurant universitaire et les bus vont assurer régulièrement le transport pour permettre à ceux qui le désirent de continuer à étudier.
Un bilan provisoire annoncé dans le même communiqué fait état de 6 véhicules vandalisés au niveau du rectorat ainsi que des dégâts importants sur son bâtiment principal. Du côté des étudiants, l'on dénombre plusieurs arrestations et des blessés. Sita Gabiri, secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey.
Il y a une centaine de camarades qui ont été arrêtés. Par rapport aux blessés, il y a 4 blessés graves qui ont tous été victimes d'un tir tendu comme ça a été le cas pour Bagalé. Cette mesure que le gouvernement vient de prendre de fermer la cité universitaire, c'est un schéma classique.
La manifestation qui a tourné en ces heures ce mardi avait pour but de répondre à un mot d'ordre de la structure nationale des scolaires pour exiger la satisfaction d'un certain nombre de revendications, dont la principale est la réhabilitation de 5 dirigeants syndicaux des étudiants exclus par le conseil de l'université en mars dernier. Abdulrazak Idrissa, Niamey, VOA Afrique.
Mali, le conseil de sécurité de l'ONU a estimé hier que la sécurité des casques bleus de la MINUSMA doit encore être améliorée après l'attaque perpétrée contre le week-end dernier à Tombouctou. Cette attaque, la plus importante depuis leur déploiement en 2013, a coûté la vie en casques bleus et blessé 7 soldats français. Elle interpellée par sa brutalité et sa sophistication, aurait dit des responsables de l'ONU qui ont présenté au conseil de sécurité une première évaluation de l'attaque contre le supercamp de l'ONU et de la force française Barkhane samedi à Tombouctou dans le nord du Mali. 15 assaillants ont été tués selon les autorités françaises.
La mission de l'ONU en Centrafrique a assuré hier qu'elle ne cédera pas à l'intimidation suite au regroupement d'éléments armés issus de l'ex-Séléka à Kagabandoro, une ville à 300 km au nord de Bangui. Selon son porte-parole, Vladimir Monteiro, la MINUSCA continuera en toute impartialité à assurer son mandat de protection des civils et des institutions. Ces éléments ex-Séléka expliquent leur regroupement par l'opération lancée par la MINUSCA contre les milices qui contrôlent le PK5, quartier musulman de Bangui, qui est aussi le poumon économique de la capitale.
En République démocratique du Congo, Constant Omari est libre depuis mercredi soir. Le président de la Fédération congolaise de football, arrêté puis mis en garde à vue, avec deux de ses adjoints et le numéro 1 de l'administration sportive du ministère des Sports, est poursuivi pour détournement de deniers publics et privés et atteinte aux droits garantis aux particuliers. Il va poursuivre ses auditions en homme libre, nous dit Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Il est sorti libre mercredi vers 20h heure de Kinshasa après avoir été autorisé à rentrer chez lui avec l'obligation de se présenter ce jeudi muni de son passeport. Constant Omari avait au préalable été entendu au parquet de Matete où il avait été interpellé à la demande des services du conseil spécial du président Kabila en matière de lutte contre la corruption, M. Luzolo Bambi. Il n'y a aucun élément qui démontre des faits de détournement par le président de la fédération. Cela ressemble plus à un complot, a déclaré l'un des ses avocats, rappelant l'état de santé préoccupant de ce dernier, par ailleurs vice-président de la CAF et membre du comité exécutif de la FIFA. Les trois autres détenus, c'est-à-dire les deux vice-présidents de la FECOFA ainsi que le secrétaire général au sport et loisirs, ont eux passé une deuxième nuit au parquet en attendant la poursuite des auditions prévues ce jeudi. Ces quatre dirigeants sportifs congolais sont poursuivis pour détournement des deniers publics et privés et atteinte aux droits garantis aux particuliers. Aussitôt après la libération de Constant Omari, la Ligue nationale de football, qui avait annoncé plus tôt la suspension par solidarité avec le président de la FECOFA et deux de ses adjoints du championnat national, est revenue sur sa décision. Kinshasa, Thierry Kamundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
L'ambassadeur de Côte d'Ivoire auprès de l'ONU, Bernard Tano Boutchoué, membre non permanent du Conseil de sécurité, est décédé brutalement hier dans un hôpital de New York à l'âge de 67 ans. La raison précise de son décès n'a pas été communiquée. Le Conseil de sécurité a prévu d'observer aujourd'hui une minute de silence à sa mémoire.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump a fait preuve d'optimisme hier quant à la possibilité d'une Corée du Nord dénucléarisée. Selon lui, le directeur de la CIA, Mike Pompeo, s'est vraiment bien entendu avec le leader nord-coréen Kim Jong-un lors de sa visite secrète à Pyongyang. Une voie prometteuse est ouverte pour la Corée du Nord si elle accomplit une dénucléarisation complète, véritable, vérifiable et irréversible, a dit M. Trump.
Le chef de l'exécutif américain a cependant lancé cet avertissement sur le sommet qu'il doit avoir avec Kim Jong-un. Si je pense que cette rencontre ne sera pas fructueuse, nous n'allons pas nous y rendre. Si la rencontre, lorsque j'y serai, n'est pas fructueuse, je la quitterai respectueusement. Monsieur Trump a tenu ses propos hier à Mar-a-Lago, sa résidence de Floride, lors d'une conférence de presse conjointe avec son invité, le premier ministre japonais Shinzo Abe.
Une équipe de l'ONU est en dialogue avec les autorités syriennes et russes à Douma pour permettre aux experts d'enquêter le plus tôt possible sur les lieux de l'attaque chimique présumée perpétrée dans cette ville proche de Damas. C'est ce qu'ont indiqué hier des responsables des Nations Unies. L'enquête de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques est au point mort. Une équipe d'experts internationaux ne pouvant se rendre sur place pour des raisons de sécurité après qu'une mission de reconnaissance de l'ONU a été la cible de tir mardi.
C'est une transition qualifiée d'historique qui s'opère aujourd'hui à Cuba. Le président Raúl Castro cède le pouvoir ce matin à son vice-président Miguel Díaz-Canel après 6 décennies de pouvoir exclusif des frères Castro, Jacques Aristide.
La session de l'Assemblée nationale cubaine a hier présenté Miguel Díaz-Canel comme seul candidat à la succession de Raúl Castro. Âgé de 57 ans, il va être le premier président cubain à être né après la révolution de 1959. Tout en laissant la place à une nouvelle génération, Raúl Castro, 86 ans, et d'autres vétérans de la révolution devraient conserver un rôle influent à la tête du Parti communiste, au moins jusqu'au prochain congrès du parti en 2021. Raúl Castro, qui a succédé à son frère Fidel il y a 10 ans, a d'ailleurs choisi une date symbolique de l'histoire politique cubaine pour son départ, puisque ce jeudi 19 avril est la date anniversaire de la mise en échec en 1961 du débarquement d'anticastristes soutenus par la CIA dans la baie des Cochons. Sur le plan des libertés, il est peu probable que Díaz-Canel engage à court terme l'île communiste sur le chemin du pluralisme, que ce soit sur le plan politique ou médiatique. Sur le plan économique, le nouveau président ne devrait pas non plus précipiter davantage que Raúl Castro les réformes initiées par Fidel dans la foulée de l'effondrement de l'Union soviétique, malgré l'impatience croissante des plus jeunes.
Le milliardaire Bill Gates a mis en garde hier contre une résurgence du paludisme. Le philanthrope américain a dénoncé le manque de volonté politique d'en finir définitivement avec cette maladie. C'était à un sommet sur le paludisme qui se tenait en marge de celui des dirigeants des 53 pays membres du Commonwealth. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Minute Éco, Irénée Herman Oumbo.
La croissance de l'Afrique subsaharienne devrait atteindre 3,1% en 2018 et s'établir à 3,6% en moyenne sur 2019-2020, prédit Africa Pulse, le rapport semestriel de la Banque mondiale qui analyse l'état des économies africaines. Les prévisions de croissance tablent sur la stabilité des cours des hydrocarbures et des métaux et sur la mise en œuvre dans les pays de la région de réformes visant à remédier aux déséquilibres macroéconomiques et à stimuler l'investissement. Selon les données rendues publiques par l'administration des douanes du Mali, ce sont au total 149,125 milliards de francs CFA, environ 280 900 000 dollars de recettes douanières qui ont été mobilisées au 31 mars 2018. Ces recettes sont légèrement inférieures de 7,155 milliards de francs CFA, environ 3,4 millions par rapport aux prévisions de recettes initiales qui étaient de 156,280 milliards de francs CFA, environ 295 millions de dollars sur cette période, ce qui correspond à un taux de réalisation de 95,4%. Cap sur le Mozambique qui bénéficiera d'une nouvelle période de grâce pour le remboursement de sa dette envers la Chine et l'Inde. L'accord qui concerne 2,2 milliards de dollars de dette envers les deux pays s'inscrit dans une logique de soutien à ce pays d'Afrique australe. Le but est de libérer les ressources afin de financer des plans dits prioritaires.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Voilà, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Suite et fin du tour de cadrage, retour de la Coupe CAF.
Et la belle qualification du rayon sport du Rwanda obtenue au Mozambique malgré une défaite 2-0 sur la pelouse de Costa do Sol. Enyimba du Nigeria se qualifie après un match nul 0-0 contre l'équipe de Wits d'Afrique du Sud. Grosse déception pour la génération foot du Sénégal. Après une expulsion, l'équipe sénégalaise a donc perdu 2-0 au Maroc sur la pelouse de la Renaissance de Berkane qui se qualifie pour cette phase de poule. Petite victoire, mais victoire suffisante pour le Karasport du Congo-Brazzaville qui élimine Saint-Georges d'Éthiopie. Victoire insuffisante à domicile pour Al Hilal Obied du Soudan qui est éliminé par Songo, le club du Mozambique. Et puis match nul 0-0 suffisant pour le Williamsville de Côte d'Ivoire face au Deportivo Niéfang. La victoire précieuse du match aller 2-0 a compté pour qualifier les Ivoiriens pour cette phase de poule. Qualification également des Young Africans de Tanzanie malgré une défaite 1-0 sur la pelouse de Welaita Dicha d'Éthiopie. Le Raja Casablanca n'a pas fait de détails face aux Zanaco de Zambie. Qualification et victoire 3-0. Petite défaite pour Adouana Stars, 2-1, mais suffisant face au Fossa Junior de Madagascar pour se qualifier après la large victoire 6-1 en match aller. Al Hilal du Soudan se qualifie malgré la défaite au Nigeria face à Akwa United 3-1. Le Supersport United d'Afrique du Sud éliminé par Gor Mahia malgré une victoire 2-1. Et puis le Djoliba à Bamako qui réalise le match nul 0-0. C'est suffisant après la victoire au Nigeria face au MFM, 1-0.
Suspense relancé en Italie.
Vainqueur de l'Udinese 4-2, Naples est revenu à 4 points de la Juventus Turin, tenu en échec à Crotone, 1-0. Et ce, avant le choc entre les deux équipes ce week-end en Serie A. La Roma, de son côté, a dominé le Genoa 2-1 et la Lazio a battu la Fiorentina 4-3.
Le PSG en route pour un triplé.
Et oui, tout réussi au Paris Saint-Germain en France. Le PSG qui a battu Caen hier en demi-finale de la Coupe de France 3-1, un doublé de Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain sera opposé en finale à la petite équipe des Herbiers pour sans doute remporter un nouveau trophée.
Le Real accroché.
Longtemps mené par l'Athletic Bilbao hier en Liga, le Real Madrid a fini par égaliser sur un but de Cristiano Ronaldo à la 87e minute de jeu. Score final, 1-0. Un résultat qui ne permet pas aux Galactiques de distancer Valence, pourtant battu un peu plus tôt dans la course à la 3e place. Ce match nul pourrait également faire les affaires de l'Atlético Madrid, 2e avec 3 points d'avance et surtout un match en retard à disputer. Allez Idrissa, avec vous, on poursuit les playoffs en NBA. Le championnat de basket nord-américain.
Conférence Est, Cleveland de LeBron James a égalisé avec Indiana, une victoire partout, après sa victoire sur les Pacers 100-97. Conférence Ouest, Utah a battu Oklahoma City 102-95. Les deux équipes sont à égalité, une victoire partout. Mais Houston mène 2-0 en battant Minnesota 102-82.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burundi, trois formations politiques de l'opposition, dont le parti de l'actuel vice-président de l'Assemblée nationale, Agathon Rwasa, ont écrit aux responsables de la région, de l'Union africaine et des Nations unies pour les mettre en garde contre les risques liés à la révision constitutionnelle si elle est adoptée en mai prochain. Pour le porte-parole du ministre burundais de l'Intérieur, ce mémorandum de l'opposition renferme des mensonges, car la révision est du ressort de la souveraineté nationale. En outre, ajoute le même porte-parole, l'accord de paix et de réconciliation d'Arusha a été scrupuleusement respecté. Le point avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Kurunziza.
Il y a une semaine, Agathon Rwasa, vice-président de l'Assemblée nationale burundaise, Léonce Ngendakumana, vice-président du parti de l'opposition Front pour la démocratie au Burundi Frodebu, et Evariste Ngaïmenda, du parti de l'indépendance Union pour le progrès national, ont sorti un mémorandum qui fustige la révision de la constitution qui suivra le référendum du 17 mai prochain. Pourquoi avoir crié à la région et à la communauté internationale, Léonce Ngendakumana, vice-président du Frodebu?
Le mémorandum s'inscrit alors dans le cadre d'alerter l'opinion nationale et internationale, particulièrement le peuple burundais, les garants de l'accord d'Arusha, les dépositaires de l'accord d'Arusha, sur les risques de la révision unilatérale de cette constitution qui remet en cause tous les acquis de l'accord d'Arusha. Ça, c'est la première chose. Deux, nous avons fait la motivation pour le rejet de ce référendum. Trois, nous avons fait une analyse comparative de l'accord d'Arusha et la constitution qui en est issue d'une part, et du nouveau projet de constitution d'autre part, pour démontrer finalement que si cette constitution était adoptée, on ne parlera plus de l'accord d'Arusha, on ne parlera pas de l'état de droit au Burundi, on ne parlera pas de l'état démocratique.
L'assistant du ministre de l'Intérieur, Terence Ndahiraja, s'inscrit en faux contre ce mémorandum. Ndahiraja indique à VOA Afrique que ses opposants ont d'autres objectifs.
Le premier objectif, c'est d'arrêter le processus référendaire en cours. Nul n'ignore que le processus de révision d'une constitution relève de la souveraineté d'un pays et de son peuple. Deuxièmement, ils disent le mensonge comme quoi les acquis de paix, de sécurité, de cohésion sociale seraient mis en épreuve. Ça, c'est faux et archi faux. De ce croix, ils ont dit que son projet de constitution est de nature à enterrer définitivement l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Ça, c'est vraiment un propos honteux à mon avis, parce que si je vous cite quelques articles du projet de constitution relatif à l'accord d'Arusha, vous serez étonnés. Et enfin, ils disent que le projet de constitution va mettre fin définitivement aux droits de minorité politique et ethnique. J'ai juste l'explicité, c'est dommage.
Ce référendum sur la constitution est programmé pour le 17 mai prochain. Pour la commission électorale nationale indépendante, tout le matériel est déjà disponible et sera acheminé la semaine prochaine dans les 19 provinces qui composent le Burundi. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Au Nigeria, fin aujourd'hui à Abuja de la conférence co-organisée par les États-Unis pour renforcer la coopération dans le domaine de la lutte antiterroriste en Afrique. Les responsables militaires de plusieurs pays africains y participent. Le correspondant de VOA Afrique au Nigeria, Gilbert Tamba, a assisté aux exercices militaires en marge de ce sommet. Son reportage.
Le sommet réunit les représentants des chefs des armées des pays africains comme le Cameroun, l'Égypte, le Kenya, le Sénégal ou le Burkina Faso. Objectif principal de la rencontre, parler de la sécurité sur le continent, mais aussi de la menace djihadiste dans certaines régions d'Afrique. Boko Haram au Nigeria, Agmi au Mali et dans la région ouest africaine, les Chebab en Afrique de l'Est. La menace est réelle et c'est pourquoi en plus des débats autour d'une table, il y a aussi des exercices militaires pendant cette rencontre. Le général de brigade Kwame Ndri Julien, chef d'état-major de l'armée des terres de Côte d'Ivoire.
C'est une action classique où il y a des otages qui sont pris et les forces spéciales appuyées de l'aviation viennent libérer les otages. Et donc, c'est une action classique dans les armées. Et nous sommes très heureux de voir que l'armée nigériane est capable de mener de telles opérations.
L'intérêt croissant des États-Unis pour la lutte contre les groupes djihadistes en Afrique est illustré par la présence des militaires américains dans plusieurs pays d'Afrique, notamment au Niger et au Mali, depuis Barack Obama. Son successeur, Donald Trump, poursuit la même politique. Donald Trump, qui doit recevoir dans ce cadre son homologue du Nigeria, Muhammad Buhari, à Washington le 30 avril. Le général de brigade, Eugène Lebeuf, est le commandant par intérim de l'armée américaine en Afrique.
Nous jouons un rôle d'assistance à nos partenaires africains dans la lutte contre les organisations extrémistes. Donc, notre travail, c'est d'aider à identifier quels sont les besoins et aider à trouver de l'assistance dans le cadre de notre coopération.
L'ancien secrétaire d'État américain, Rex Tillerson, avait durant sa tournée dans 5 pays africains, dont le Nigeria, sa dernière étape avant son limogeage, promis le soutien militaire de l'administration Trump dans ce domaine. Pour le chef d'état-major de l'armée de terre du Sénégal, ce partenariat a un intérêt commun. Le général de brigade Cheikh Wade.
C'est un partenariat, je pense que c'est une très bonne chose, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'ennemis cloisonnés. L'ennemi est global, il est partout et il est nulle part. Donc tout le monde est concerné par cette menace qui est devenue une menace mondiale. Il n'y a que de façon unie, et dans l'action, dans la solidarité et dans la fraternité que nous pouvons vraiment combattre cet ennemi.
Le Nigeria, où se déroule le sommet des militaires, fait face à une insurrection sanglante du groupe terroriste Boko Haram dans le nord-est il y a plusieurs années. Mais le chef d'état-major de l'armée nigériane estime qu'avec ces démonstrations réalisées par ces hommes, le Nigeria est prêt avec le soutien nécessaire pour faire face à un déploiement rapide. Le lieutenant général Tukur Buratai.
C'est une démonstration
montre notre capacité en termes de déploiement rapide. Donc avec l'obtention de logistique comme les moyens de déplacement, nous aurons les moyens d'atteindre toutes ces localités où on ne pouvait pas arriver à temps.
Ce sommet de 4 jours offre également aux pays participants la possibilité de partager leurs expériences sur la lutte antiterroriste et de trouver une approche commune pour combattre les menaces et les crimes transnationaux tels que la prolifération des armes légères et le terrorisme en Afrique. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Cette semaine, dans Washington Forum, gros plan sur le paludisme. Cette maladie est en progression avec 5 millions de cas supplémentaires en 2016. Comment expliquer cette augmentation ? Une conférence est ouverte dimanche au Sénégal pour faire le point sur la lutte contre le paludisme. Quelles sont les politiques mises en œuvre ? Où en sont les recherches scientifiques ? Le vaccin en cours d'évaluation sera-t-il à la hauteur des espoirs ? On en discute dans Washington Forum. Morgan Guiriac avec vous. Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, poursuite du Festival des musiques urbaines, le FEMUA, qui se tient du 17 au 22 avril à Abidjan et Korogo. Il a pour thème cette année « Jeunesse africaine et immigration clandestine ». Écoutons Dili Diko.
Il y avait du beau monde à la cérémonie d'ouverture de la 11e édition du FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, le mardi 17 avril à Abidjan. Membres du gouvernement, ambassadeurs et responsables d'institutions internationales, chefs coutumiers, artistes ivoiriens et internationaux, impresarios et promoteurs de spectacles, tous ont fait le déplacement. Écoutons Lokwa Kanza, artiste musicien.
C'est plutôt une magnifique fête, mais pas simplement une fête qui va faire en sorte qu'on soit content, mais une fête qui consacre un groupe, une initiative du Magic System à pouvoir aider les jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un exemple. La réussite du Magic System, c'est demain ce que le peuple africain doit faire à ses enfants. C'est-à-dire redonner de tout ce qu'on a pu gagner et tout ce qu'on a pu recevoir comme enseignement.
Cette 11e édition a pour thème « Jeunesse africaine et immigration clandestine ». Selon les statistiques de l'Organisation internationale de la migration, l'OIM, 80% de la migration en Afrique provient d'Afrique de l'Ouest. Albert Drogba-Carino, coordinateur presse du FEMUA, nous en dit plus.
Et c'est tous les jours que les Ivoiriens et les Africains meurent. Donc on a choisi ce thème-là pour faire comprendre aux gens qu'on peut avoir 100 000 francs ici et une activité de 100 000 francs et vivre de ça. Parce que l'Europe, aller en Europe, c'est bien. On apprend des choses, on cherche un monde meilleur. Mais au prix de sa vie, non.
Initié en 2008 par Asalfo, lead vocal du groupe Magic System, le FEMUA est un événement à caractère social, culturel, économique et touristique. Ce festival contribue à procurer de la joie aux populations du quartier qui ont vu naître le groupe en accueillant sur scène les plus grosses stars de la musique africaine. Kadika Diogo, présentatrice télé, partage ses impressions avec nous.
Je vois l'ampleur de tout ce qui se passe autour du FEMUA, le boulot qui s'abat autour du FEMUA, la jeunesse qui est intégrée, le thème de cette année qui est super, enfin qui est d'actualité.
Jusqu'à dimanche, ce sont 6 jours de rendez-vous festifs qui auront lieu à Anoumabo, au plateau et dans la ville de Korogo, avec entre autres la Nigériane Yemi Alade, le Malien Sidiki Diabaté ou le Français Soprano. Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Le cardinal français et président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux au Vatican, Jean-Louis Torrent, est en visite en Arabie Saoudite. Le prélat français, considéré comme un promoteur enthousiaste du dialogue entre l'Église catholique et l'islam, a également rencontré le roi Salman d'Arabie Saoudite mercredi à Riyad, ont rapporté les médias d'État. Pour en savoir davantage, Eric Manirakiza a joint à Rome le chargé de l'Afrique et du secteur francophone auprès du secrétariat pour la communication au Vatican, l'abbé Janvier Marie Gustave Yameogo.
C'est une première, en effet, qu'un cardinal de cette dignité rencontre le roi Salman à Riyad. Et l'objet de cette visite, c'est simplement pour renforcer la connaissance en vue du dialogue. Le cardinal lui-même a dit que ce qui nous menace aujourd'hui, ce qui menace la paix, ce n'est pas le choc des civilisations, c'est le choc des ignorances. Et c'est ce qui amène le radicalisme. Et justement, dans cette rencontre, le cardinal Torrent, qui est parti avec le chef du département pour l'islam, a abordé ces points en vue d'apporter plus de dialogue pour la paix et la cohabitation pacifique dans le monde.
Et pourquoi le choix de Riyad ?
Ce dialogue est plurilatéral. Vous voyez, le pape est allé en Égypte. Il y a de la coopération entre, par exemple, l'université du Latran et puis certaines universités au niveau de l'Iran. L'Église n'ignore pas les différentes sensibilités au niveau de l'islam. Et c'est pourquoi cette rencontre se déroule aussi à tous ces niveaux-là. Je rappelle qu'en septembre, le pape lui-même a reçu en audience le secrétaire général de la Ligue islamique ici au Vatican. Il ne s'agit pas de contribuer à diviser, même si on sait que même au sein de l'islam, comme d'ailleurs au sein de la religion chrétienne, il y a toujours des tendances de division. Et justement, durant cette rencontre, le cardinal Torrent a encouragé à l'ouverture des lieux saints pour des rencontres spirituelles, en reconnaissant qu'effectivement, à Rome, comme dans d'autres lieux saints chrétiens, et même dans certains endroits, il y a des mosquées qui sont ouvertes à des non-musulmans, comme les basiliques ou les églises sont ouvertes à des non-chrétiens, ben on sait effectivement qu'il y a encore des lieux où des musulmans forcent les chrétiens à renier leur foi. Et encore beaucoup de chrétiens sont morts martyrs tout récemment dans plusieurs endroits du monde. Et cela doit être dit aussi.
Pensez-vous que cette visite va ouvrir la voie à la liberté de culte dans le pays ?
Il n'est pas encore possible d'avoir des églises, comme par exemple dans beaucoup de pays dits chrétiens, il y a des mosquées et la liberté de pouvoir professer sa foi islamique, de prier sans problème. Ailleurs, il n'y a pas encore cette réciprocité. Ce n'est pas une démarche, j'allais dire de revendication, mais une démarche plutôt de rencontre et de dialogue qui, par la suite, certainement favorisera, et nous espérons que dans les prochaines années, l'ouverture puisse permettre aussi d'avoir des églises ouvertes au culte chrétien dans ce haut lieu de l'islam qui est la Mecque et Médine.
L'abbé Janvier Marie Gustave Yameogo au Vatican. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.